Je pensais arrêter les frais sur Luther. Mais j'y ai pris goût à Luther. En plus, il a une bonne bouille. Et j'espère que vous aussi, vous, pendant ce mois d'octobre, vous avez pris goût à Luther. Et puis, vous savez que l'anniversaire de la réforme a lieu mardi, le 31 octobre 2017. Ça fait 500 ans, jour pour jour, que Luther a placardé ses 95 thèses sur les portes de l'église de Wittenberg. Donc on ne pouvait pas, le 29 octobre, aujourd'hui, ne pas continuer un petit peu à parler de Luther au risque de l'indigestion. Mais je vous propose un dernier sola. Sola scriptura, sola gratia, sola fide. Et le dernier sola sera un solus, le solus Christus qui apparaît en quatrième position. On a parlé de Soli Deo Gloria il y a 15 jours lors de la présidence, là, l'introduction du culte. Et vous dites, et la sola fide? Ben, la sola fide, je trouve qu'elle est tellement proche de la sola gratia, donc la foi seule est tellement proche de la grâce seule, que j'attends le prochain anniversaire de la réforme pour en parler, c'est-à-dire dans 500 ans ou peut-être dans une centaine d'années. Mais voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il me semble qu'avec ces cinq solas de la réforme, ces cinq seuls de la réforme, nous permettent de revenir à l'essentiel. La grâce seule, la foi seule, la gloire de Dieu seule, l'Écriture seule, Christ seul. Et il me semble que ça fait toute la pertinence de la réforme protestante du XVIe siècle, c'est ce retour à l'essentiel. Et c'est un retour qui est important, qui est nécessaire, parce que l'homme avec un grand H, l'humanité a effectivement tendance à toujours en rajouter, en surajouter comme du sel dans son plat, ou tendance à s'encombrer de choses inutiles comme on entasse des objets dont on n'a pas besoin dans son grenier. Et à un moment, il faut faire le tri et dire non, seulement ça et pas plus. Il faut revenir à l'essentiel, seulement à l'essentiel seul. Pourtant, tout avait bien commencé, l'annonce de l'Évangile avait été clairement communiquée par les apôtres, le Christ était annoncé comme le seul chemin du salut. Et c'est le premier sens que l'on peut donner à l'expression « Christ seul ». Il y en aura deux. Christ, seul chemin de salut. Dans le livre des Actes des Apôtres, dont nous avons lu l'extrait tout à l'heure, au chapitre 4, nous sommes à Jérusalem. Il y a quelques jours, Jésus est monté au ciel. C'était l'ascension. Les disciples l'ont vu. Ils ont reçu une puissance d'en haut, qu'on appelle le Saint-Esprit. Un homme infirme a été guéri. Les disciples n'avaient pas grand-chose à lui offrir, à cet homme malade, paralysé. Ils n'avaient ni argent ni or, mais tout ce qu'ils avaient, c'est-à-dire la foi en Jésus-Christ, c'est-à-dire l'amour pour cet homme, c'est-à-dire l'énergie du Saint-Esprit, ils le lui donnent et cet homme est guéri. Évidemment, ça fait du bruit et on leur demande de donner une explication à cet événement peu banal. Et au lieu de s'attribuer la gloire de cette guérison, moi j'aurais peut-être hésité, au lieu de dire « oui, nous avons été à bonne école et nous avons une certaine capacité, nous dégageons un certain magnétisme guérisseur », non, Pierre et Jean, ils vont parler de Jésus. Et la guérison de l'homme passe au second plan. Ils vont parler de Jésus comme étant le seul chemin. Et voilà ce qu'ils disent, c'est en lui seul. Enfin, je vous lis d'abord. « Eh bien, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons agi. De ce Jésus que vous avez d'ailleurs crucifié. » Et il n'y va pas de main morte. On est à Jérusalem. Donc il accuse les autorités juives de l'avoir crucifié. Et que Dieu a ressuscité, c'est grâce à lui que cet homme, l'infirme, se tient là, debout devant vous, en bonne santé. Et c'est en lui seul, pas en l'infirme, mais en Jésus, celui qui l'a guéri, c'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a personne d'autre que Jésus pour sauver cet homme et le monde. Et Pierre insiste sur la portée universelle du salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme. Oh, j'arrive pas à le dire. Par lequel nous devions être sauvés. Solus Christus, dit Pierre à Jérusalem. Et Pierre le dit parce qu'il a été à l'école de ce Jésus de Nazareth pendant 3 ans et il se souvient justement que sur la route, en le suivant, ce même Jésus de Nazareth, charpentier de son métier, avait dit « Je suis moi, le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père que par moi. » Et peut-être qu'à ce moment-là, Pierre n'avait pas bien compris ce que Jésus, le rabbin, voulait dire. Peut-être même qu'il avait pensé que ce Jésus de Nazareth, charpentier de son métier, comme on l'a dit, y allait un petit peu fort et que tout doucement, ce Jésus devenait un peu mégalomane. Mais maintenant qu'il a assisté, Pierre, à la mort de Christ, qu'il a assisté à sa résurrection, à l'ascension, à la Pentecôte, il peut dire à son tour, « Nul ne vient au Père que par lui, parce qu'il n'y a sous le ciel, littéralement, aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous devions être sauvés. « Solus Christus », dit Pierre. Mais comme il écrit en grec, il faudrait dire « Monos Christos ». Mais vous, que dites-vous? Qu'en dites-vous? Et je vous pose la question parce que parler aujourd'hui de Jésus-Christ, seule et unique voie de salut, pose pas mal de problèmes. Si vous l'affirmez entre la poire et le fromage au cours d'un repas avec des amis, ou mieux si vous l'affirmez au milieu de la salle des profs de votre lycée ou de votre collège, essayez pour voir, vous m'en direz des nouvelles. Dans l'école laïque française, vous allez passer pour quelqu'un d'extrêmement intolérant, d'arrogant ou pour un fanatique déséquilibré. Jésus-Christ seul, voie de salut. Alors que faire quand on est chrétien et qu'on accueille les paroles du Christ qui sont parfois exclusives? Alors d'abord, il faudra certainement et en premier lieu choisir ses lieux et ses moments. Et la salle des profs n'est pas peut-être le meilleur endroit pour en parler. Il faudra bien se préparer à votre manière ou à notre manière de communiquer et ne pas oublier la douceur, l'humilité, le respect de l'autre dont nous parle Pierre dans sa lettre quand il parle de défendre l'espérance qui est en vous. L'humilité, le respect, la douceur. Mais à un moment ou un autre, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'à-propos, avec beaucoup de douceur, d'humilité et de respect, il faudra pouvoir dire que le salut passe par Jésus-Christ et lui seul. Non pas, le salut ne passe pas par l'accomplissement de soi, il ne passe pas par la méditation transcendantale, il ne passe pas par les vertus de la République ou les valeurs judéo-chrétiennes, il ne passe pas par les livres de Michel Onfray, il ne passe pas par je ne sais quoi encore, mais il passe par Jésus-Christ seul. Et dans ce moment de grande solitude qui va suivre votre annonce de Jésus-Christ seul, il faudrait peut-être faire nôtre les paroles de Luther à la Diète de Worms, encore une fois je les cite, « Ma conscience est liée par la parole de Dieu qui me dit que Jésus est l'unique voie de salut. Je ne puis autrement que Dieu me vienne en aide. » Arrêtez les tomates. Ma conscience est liée par la parole de Dieu qui présente Jésus comme étant l'unique voie de salut vers le Père. Il n'y a de salut en aucun autre. La Bible le dit. Jésus le dit. Et quand on y regarde de plus près, et quand on le vit au quotidien, c'est véritablement une bonne nouvelle. Mais il y a un deuxième sens pour Christ seul. Quand on dit Christ seul, on veut aussi dire que la personne et l'œuvre de Christ est suffisante et qu'il n'y a rien à ajouter. Et à l'époque de la Réforme, on ne remettait pas en question le fait que Jésus soit l'unique voie de salut. Mais on ajoutait un petit quelque chose à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Les indulgences, par exemple, on en a déjà parlé. On est sauvé par Jésus-Christ plus une indulgence, ou plusieurs indulgences. Ou autre chose qu'on ajoute après le mot Christ. Jésus-Christ, ou Christ, plus. Mais dès qu'on ajoute quelque chose à l'Évangile, on se trouve directement, dès qu'il y a un petit plus ajouté au nom de Christ, on se trouve directement en dehors de l'Évangile de la grâce. La grâce, l'amour et le pardon de Dieu gratuitement donnés en Jésus-Christ ne peuvent s'accommoder d'un plus. La grâce ne s'additionne pas. Sola gratia, la grâce seule. Et le problème d'ajouter quelque chose à Christ n'est pas celui de l'Église catholique du XVIe siècle, mais un problème de toutes les églises et de tous les chrétiens de tous les siècles. Comme le sel dans son plat, comme le bazar dans son grenier, on veut toujours ajouter quelque chose à l'évangile de Jésus-Christ, et ce depuis le début. Et on a un exemple frappant avec l'église de Colosse. On a lu l'épître aux Colossiens tout à l'heure. L'église de Colosse démarre très bien, enfin le chapitre 1 et les premiers versets démarrent très bien. On voit que c'est une église qui est pleine d'amour, qui est pleine de foi, qui fait des progrès dans l'annonce de l'évangile. L'église de Colosse, magnifique. Les rumeurs autour de cette église sont des belles rumeurs. Mais au fur et à mesure de la lettre, on s'aperçoit qu'il y a du danger autour de cette église. Et ce danger, c'est d'ajouter quelque chose à Jésus-Christ, d'ajouter quelque chose à l'évangile. Et c'est assez insidieux, c'est pas visible, mais les Colossiens couraient le danger de s'éloigner du Christ seul, du solus Christus. Et Paul leur dit au verset 8, « Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse, d'une sophia, d'un sophisme, qui n'est que tromperie et illusion qui se fondent sur des traditions toutes humaines, sur les principes qui régissent la vie des gens de ce monde, mais non sur le Christ. Mais non sur le Christ seul. » Autrement dit, faites attention, ne vous laissez pas kidnapper, ne vous prennent au piège par tous ceux qui veulent ajouter quelque chose au salut en Jésus-Christ. Littéralement, pour prendre au piège, se faire une proie. Attention à tous ceux qui veulent se faire une proie parmi vos rangs. Faire un butin d'esclaves en vous amenant sur un autre terrain que celui du Christ seul. Et Paul, dans Colossiens, va décrire ces dangers un peu plus loin. Des dangers donc qui consistent à dire, ou plutôt laisser entendre de façon assez cachée, que Christ n'est pas suffisant, qu'il faudrait ajouter quelque chose. Et nous allons les passer en revue rapidement. Et le premier danger d'un ajout possible apparaît plus loin dans le texte, et il s'agit du légalisme. Christ plus les règles. C'est pourquoi ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez ou au sujet de l'observance des jours de fête, des nouvelles lunes ou des sabbats. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. Seul, j'ajoute. Il faut savoir qu'à l'époque, à la naissance du christianisme, on est dans le premier siècle, on est dans les années 60 du premier siècle, les chrétiens sont souvent d'origine juive, ou très sensibles à la culture juive, et donc très tournés vers les commandements, il y en a 618 dans la loi juive, dans la loi de Moïse, ou vers les rites, vers les règles, vers la loi. Et quand ces personnes d'origine juive deviennent chrétiennes, la tentation est grande d'ajouter quelques règles au salut en Jésus-Christ. Christ plus les règles. Et on imagine facilement, et je vous demande d'imaginer. On est là à Colosse en 64. En 64, ouais. Pourquoi j'ai choisi ça, 64, le département? Mais c'est parce que c'est l'époque où Paul écrit ses épîtres. Et on a là un jeune chrétien de Colosse, la ville de Colosse, qui est d'origine païenne, qui se convertit à l'évangile de grâce, qui est présenté par Épaphras. Épaphras, c'est le fondateur de l'église de Colosse. Et Épaphras lui a parlé de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Il lui a parlé de la mort de Jésus sur la croix qui prend sur lui son péché. Il lui a parlé, Épaphras, à ce jeune de Colosse, de la résurrection, de cette nouvelle vie, de cette nouvelle identité pour une vie nouvelle. Et le jeune homme est tout renouvelé. Le jeune homme est touché par la grâce. Et il rend témoignage à l'église de Colosse. Et tout le monde se réjouit de ce qu'il vit, de ce qu'il dit. Mais à la fin de la réunion, c'est le dimanche soir, parce que le dimanche n'est pas congé. Donc le jour du Seigneur, le premier jour de la semaine, ça se fait les réunions le soir. Il y a, après la réunion où le jeune Colossien lui a rendu témoignage, il y a un type qui lui met la main sur l'épaule et lui dit, écoute, j'ai beaucoup aimé ton témoignage. Gloire à Dieu. Mais maintenant, si tu veux être dans la foi, il faudra surveiller ton alimentation, il faudra respecter le sabbat, et il faudra fêter certains jours. Je vois pas pourquoi. On m'avait dit, la grâce, écoute, il faudra t'y faire. Et surtout, il faudra le faire. C'est comme ça ici. Ok, dit le jeune homme, qui s'en va un peu déçu, un peu troublé. Et il y a de quoi, parce que c'est de l'intimidation spirituelle. C'est ajouter quelque chose au salut en Jésus-Christ. Jésus-Christ plus les règles. On n'est plus dans les Jésus-Christ seuls. Et je me demande si on ne devrait pas s'interroger si parfois nous ne ressemblons pas à cet homme qui intimide ce jeune chrétien en lui imposant des règles, des traditions, des éléments culturels qui ne sont pas du Christ. Et puis, plus loin, Paul va parler du deuxième danger, d'un autre ajout dangereux au salut en Jésus-Christ. Et là, on parle du mysticisme. Christ plus l'expérience spirituelle, une expérience spirituelle. Au verset 18-19 du même chapitre, « Ne vous laissez pas condamner par ces gens qui prennent plaisir à s'humilier et à s'adonner à un culte des anges. Ils se livrent à leur vision, ils s'enflent d'orgueil. Sans raison, poussés par leur pensée toute humaine, ils refusent de s'attacher au Christ seul. » C'est moi qui ajoute. Alors le mouvement mystique, on a fait des recherches, le mouvement mystique dont il est question ici, qui a trait au culte des anges, est certainement le mysticisme de la mère Kaba. En un mot, ce n'est pas Madame Kaba ou la mère Kaba, c'est la mère Kaba. Et dans ce mysticisme, on recherchait la vision du chariot céleste d'Ézéchiel, qui s'appelle en hébreu Merkaba. Et pour atteindre cette extase, il fallait passer par une période de privation, donc elle n'était déjà pas bien, et surtout conjurer l'hostilité des anges pour protéger les visionnaires de leur expérience ascensionnelle, d'où le culte des anges. Il fallait conjurer l'hostilité des anges. Alors tout cela est assez mystérieux, et d'ailleurs le mysticisme, les expériences mystiques sont toujours un petit peu mystérieuses. Et d'ailleurs il joue sur ce côté mystérieux. Et ils nous disent « Ah, t'es pas au courant de ces mystères parce que c'est réservé aux initiés, tu n'es pas initié, tu n'en fais pas partie, comme c'est dommage. » Et ils ont un sourire, lui aussi, mystérieux. Et ce mystère, ce côté mystérieux, est surtout très intimidant, comme toutes les expériences mystiques qui nous parlent d'ascension, de vision ou tout simplement d'expériences spirituelles en tout genre, que l'on ajoute au salut accompli en Jésus-Christ. On est dans le Christ, oui, certes, mais plus une expérience spirituelle. Et on reprend l'histoire du jeune Colossien. Il passe une mauvaise journée. Parce qu'après le type qui lui tape sur l'épaule, il y a un autre gars qui arrive dans l'église de Colosse après la réunion. Il a un collier bizarre. Et il ne lui tape pas sur l'épaule, il le prend dans ses bras. Et il lui dit, mon frère, as-tu la vision du char d'Ézéchiel ? De la Merkaba? Non, pourquoi je devrais? Non, mais c'est quand même un plus dans ta vie. Comme ce serait un plus d'avoir une seconde expérience de l'esprit. Comme ce serait un plus de tomber dans l'esprit, de rire dans l'esprit, de danser dans l'esprit, de pousser des cris d'animaux dans l'esprit, comme le mouvement de la bénédiction, soi-disant de Toronto des années 80-90. Et je vous passe toute la liste d'expériences spirituelles proposées qui s'additionnent les unes aux autres, qui s'empilent et nous éloignent de quoi ? De la simplicité de l'Évangile. Jésus-Christ seul. Non pas Jésus-Christ plus une expérience spirituelle aussi ascensionnelle et magnifique soit-elle. Ne nous laissons pas intimider, mes frères et sœurs, par des marchands d'expériences spirituelles en tout genre. Jésus-Christ seul est suffisant. Et puis, dernier danger possible, comme ajout habituel, celui de l'ascétisme. Christ plus les privations. Ne vous laissez pas imposer des règles du genre, ne prends pas ceci, ne mange pas de cela, ne touche pas à cela. Certes, les prescriptions de ce genre paraissent empreintes d'une grande sagesse, car elles demandent une dévotion, être dévot, être tourné vers Dieu, rigoureuse. En fait, elles n'ont aucune valeur, sinon pour satisfaire des aspirations toutes humaines. Ici, on a affaire à des gens qui ont une grande discipline sur eux-mêmes, qui pratiquent la privation, la restriction alimentaire, qui jeûnent pratiquement tout le temps. Ce sont des ascètes. L'ascétisme. Et l'ascétisme est très prisé à l'époque, surtout dans cette époque où le courant philosophique le plus important, c'est le stoïcisme. Le stoïcisme qui prône le contrôle de soi et qui nous reste un petit peu par l'expression « rester stoïque », rester tout en contrôle, tout en maîtrise. Alors, si c'était juste pour garder la forme et résister aux tablettes de chocolat, ça passerait. Mais il s'agit d'une pratique, l'ascétisme, qui consiste à se libérer de son corps pour que son âme puisse s'élever. Et là, on est dans l'ascétisme comme moyen de salut. Christ, oui, certes, mais avec des privations pour libérer son âme ou l'âme de son corps qui est considéré comme le tombeau de l'âme. Et c'est assez pernicieux parce qu'on parle de libérer son âme pour aller vers Dieu. Mais ce n'est pas le moyen que Dieu a choisi pour nous sauver. Il a choisi, lui, de venir, de descendre jusqu'à nous en Jésus-Christ pour nous toucher dans notre être tout entier, âme et corps. Et ce n'est pas en exerçant la privation sur mon corps que je vais élever mon âme jusqu'à Dieu. C'est en accueillant le Christ qui s'est sacrifié dans son corps pour moi que je vais être accueilli par Dieu dans mon corps et dans toute ma personne jusqu'à la résurrection. Attention à l'ascétisme sous toutes ses formes, des privations, des exercices, qui souffrent couverts de grande piété et de dévotion, et Paul le dit, hein, dévotion, peuvent couvrir justement des pratiques tellement humaines. On est très loin du soli deo gloria. On est dans des prétentions humaines, des aspirations toutes humaines. Le légalisme, Christ plus les règles. Le mysticisme, Christ plus une expérience spirituelle. L'ascétisme, Christ plus des privations. On ajoute. Et à tous ces risques d'ajout, Paul n'aura qu'une seule réponse et elle apparaît au verset 10. Et elle est merveilleuse de concision et de densité. Regardez voir. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. La semeur écrit, vous êtes pleinement comblés en Jésus-Christ. Il n'y a rien à ajouter au salut en Jésus-Christ. Il n'y a pas de plus à mettre après Jésus-Christ. Et dans la suite du passage, on l'a lu tout à l'heure, Paul parle du salut en lui, avec lui, par lui. Il y a 9 fois l'expression avec le pronom personnel, lui. Vous avez été enseveli avec lui par le baptême. C'est aussi en lui que vous êtes ressuscité, avec lui par la foi, en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Et plus encore dans les versets aussi qui précèdent, je l'ai remarqué dans la lecture tout à l'heure, en lui. Solus Christus, dit Paul aux Colossiens et à tous ceux qui sont tentés d'ajouter quelque chose au salut en Jésus-Christ, comme s'il n'était pas suffisant. Et avec cette expression « en lui » qui revient très souvent dans la Bible, Paul nous parle d'un positionnement en Christ, en lui, avec le datif, proposition de lieu. Un lieu en lui où nous sommes bien positionnés, où nous sommes cachés en lui, protégés en lui, justifiés en lui, pardonnés en lui. Et ce positionnement est suffisant pour nous donner toute l'assurance dont nous avons besoin pour vivre cette vie qui nous est donnée de vivre. Parce que Jésus-Christ est mort une fois pour toutes, parce que sur la croix il a tout accompli, parce qu'il est ressuscité le troisième jour, parce qu'il est pour nous les prémices de notre propre résurrection, nous sommes complets en lui. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Il a désarmé tous les pouvoirs qui revendiquaient quelque emprise sur l'humanité. Toutes les prétentions humaines ou diaboliques ont été anéanties, balayées à la croix. Il n'y a rien à ajouter, la victoire est totale. Tout est accompli, dit Jésus sur la croix. Nous pouvons vivre en lui. Et en lui seul, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Une conclusion avec 3 verbes. Confesser. Confesser que nous ajoutons souvent des choses supplémentaires au message tellement clair de l'Évangile. On l'ajoute parfois simplement pour nous-mêmes et on se charge d'un fardeau inutile. Je suis sauvé en Jésus-Christ par sa grâce, mais il faudrait que je fasse quand même ceci ou cela. Et ces fardeaux que l'on s'ajoute inutilement nous déçoivent parce qu'on n'y arrive pas. Parfois, on les ajoute pour les autres, en mettant sur leurs épaules des choses qui vont au-delà de la grâce. Nous le faisons parfois sans le vouloir, sans le savoir. Parfois, on met sur nos enfants des charges énormes. Parfois, on en met sur ses amis, sur son conjoint, sur son prochain. Et il nous faut confesser devant Dieu tous les plus que nous avons ajoutés à Jésus-Christ. Il nous faut aussi remercier. Remercier pour ce salut si grand, si merveilleux, accompli en Jésus-Christ, tellement merveilleux que, nous dit la Bible, les anges même désirent y plonger leur regard. Prendre la mesure de la grâce de Dieu, comme le disait Philippe Régnier, le pasteur qui a fait la prédication la semaine dernière. J'ai bien aimé cette phrase, prendre toute la mesure de la grâce de Dieu, et même de la richesse de la grâce de Dieu. Et la femme qui verse un flacon de parfum sur les pieds de Jésus, nous a dit Philippe, et c'était très finement trouvé, a pris justement la mesure, toute la mesure de la grâce de Dieu. Elle est au pied de Jésus, dans la reconnaissance. Et c'est cette position-là que nous pouvons prendre, remercier Jésus, prendre la mesure de la grâce de Dieu. Et puis, dernier verbe, partager. Partager ce trésor avec d'autres, avec notre prochain, tout en douceur, tout en sensibilité, partager le salut en Jésus-Christ seul. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas du fanatisme, c'est le message d'amour et de pardon pour tous les hommes et les femmes de bonne volonté. Et il y en a dans ce monde qui n'attendent que ça. Un trésor que nous portons avec beaucoup d'humilité, comme dit la parole, nous sommes des vases de terre. Mais ce n'est pas parce que nous sommes en terre que nous devons enterrer le message. Au contraire, il nous faut le partager encore et encore. Confessez tous les plus que nous ajoutons au salut en Jésus-Christ. Remerciez pour ce salut, justement, et c'est la richesse de sa grâce. Partagez ce trésor avec d'autres. Ce message, c'est celui du Christ seul, le chemin, la vérité et la vie, que Dieu puisse trouver en nous des témoins et des messagers de l'Évangile de Jésus-Christ, par sa grâce et pour sa gloire. Amen.